Maximus Decimus Meridius. Commandant au chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurel. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre.
Les 400 coups. L'émission ciné des 400 coups.
De 17h30 à 18h.
Tous les premiers mercredis du mois sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les 400 coups, l'émission radio des cinémas Les 400 coups. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers sur le 103 FM. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui.
Et on espère que vous avez tous passé un joli mois d'octobre et un terrifiant jour d'Halloween. Ici, on a passé un très bon moment le 31. Merci à tous d'être venus nombreux pour notre soirée plan culte spéciale Halloween. On espère que vous avez frissonné.
N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à ce sujet sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, ça fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, passons au sommaire de cette nouvelle émission.
Et un sommaire très alléchant puisque l'on démarre avec une venue exclusive. Michel Hazanavicius était présent au 400 coups il y a maintenant 2 mois pour nous présenter son nouveau film. Nous avons eu la chance de rencontrer le réalisateur pour une interview rien que pour vous sur les très belles ondes de Radio Campus 103 FM.
Anora de Schoenbaker, Palme d'Or 2024, est sortie le 30 octobre. Nous l'avons vu et c'est notre petit coup de cœur, on vous en parle.
Et beaucoup d'autres belles sorties en ce mois de novembre. La vengeance du plus guerrier des Romains, une jeune fille en quête de notoriété, une substance pas très correcte, on vous en parle en deuxième partie d'émission.
Et pour finir, nous ferons le tour de l'actu avec notre événement à ne surtout pas manquer. Et oui, nous vous dévoilerons les 4 films que nous allons diffuser lors de la fameuse nuit des plans cultes. Et ça se passe en dernière partie d'émission. Vous êtes prêts? Les 400 coups d'émission épisode 11, c'est parti.
Et vous l'avez bien compris, Michel Hazanavicius s'est rendu à Angers il y a 2 mois et nous a fait l'honneur de nous parler de son nouveau film, La plus précieuse des marchandises. C'est la première fois qu'il réalise un film d'animation, c'est une histoire bouleversante adaptée du livre du même nom.
Le film raconte l'histoire d'un couple de bûcherons jusqu'au jour où ils découvrent un bébé abandonné dans une forêt, jeté d'un train transportant des déportés. La femme décide de protéger cet enfant contre l'avis de son mari et leur vie se retrouve transformée par cet acte de compassion dans un contexte de guerre et de haine.
Le film a d'ailleurs été présenté en compétition au Festival de Cannes 2024 et y a remporté le prix du cinéma positif pour saluer son engagement et son message sur des thématiques fortes. Il a aussi fait l'ouverture du Festival international, oui je l'ai dit en anglais, du film d'Annecy où il a reçu une standing ovation de 5 minutes. Un casting fort puisque ce sont Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc et Denis Podalydès qui donnent leur voix au personnage.
Quant au dessin, c'est Michel Hazanavicius qui les co-réalise avec son équipe. Alors pourquoi a-t-il choisi de faire un film d'animation ou encore quelles étaient ses inspirations pour la création des personnages? Il nous en dit plus, extrait.
Bonjour Michel Hazanavicius, bienvenue au 400 coups, nous sommes ravis de vous accueillir à Angers pour nous présenter en avant-première votre nouveau film, La plus précieuse des marchandises, un film d'animation qui est l'adaptation du conte de Jean-Claude Grimbert. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter en quelques phrases l'histoire de votre film et comment vous êtes venu de cette adaptation?
Alors l'histoire, bonjour déjà, merci. L'histoire c'est la suivante, c'est l'histoire d'un couple de bûcherons. C'est écrit comme un conte déjà, il faut vous dire, donc c'est une forme comme ça, c'est un détournement de conte, ça commence un peu comme un conte classique puis ça va aller vers autre chose. Et donc c'est l'histoire de ce couple de bûcherons qui vit dans une forêt polonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale et puis il y a des trains qui passent dans leur forêt. Donc on se doute que ces trains vont vers des camps et un jour, ce sont des trains de déportés, puis un jour il y a un enfant qui est jeté d'un des trains et la bûcheronne va le recueillir et va vouloir le garder, va vouloir s'en occuper, va vouloir le sauver, le garder en vie et en fait elle va envers et contre tout, elle va le garder et voilà. Donc le film raconte l'histoire, les destins de ce couple de bûcherons, de la petite gamine qui a été jetée, mais aussi de l'homme qui a jeté cette gamine du train, et comment ces destins vont se croiser, vont se retrouver, etc.
Comment vous est venue l'idée de cette adaptation?
En fait, on m'a proposé, c'est-à-dire que Jean-Claude Grimbert a écrit ce texte en 2018, enfin il a dû sortir en 2019, et en décembre 2018, on m'a dit, est-ce que tu veux lire ça et on fait un dessin animé? Et j'ai lu, et j'ai trouvé que l'histoire était ultra belle, mais en même temps très simple, elle avait l'air de rien, et j'ai trouvé mais vraiment une belle histoire, émouvante, forte, solaire, pleine de thèmes, pleine de choses, enfin c'était vraiment très très riche, et puis depuis, et c'est beau, quoi. C'est-à-dire, c'est la première fois, mais en tous les cas, je trouve que quand on parle de la guerre et du génocide juif, il y a toujours quelque chose de un peu morbide, un peu. Et là, sans rien occulter, sans faire croire que c'était un événement différent de ce que ça a été, il a réussi à écrire une histoire qui vous apaise, une histoire qui fait que après, vous sentez bien, en fait. Voilà, vous avez été ému, mais vous sentez bien. Donc, comme réalisateur, quand vous voyez passer une histoire comme ça, vous la laissez pas passer, en fait. C'est une denrée rare, une aussi belle histoire pour un réalisateur.
Pourquoi avez-vous choisi de reprendre le titre initial de l'ouvrage de Grimbert ?
Parce que le livre est quasi... il est inscrit, comment dire, dans les programmes de l'éducation nationale. Je crois qu'ils ont dû en vendre 100 000. Enfin, c'est pas un petit livre dont on peut changer comme ça le titre. Et puis, je trouve que c'est un très beau titre, surtout. Et un peu ironique, parce que, évidemment, donc, la plus précieuse des marchandises, c'est cette petite fille. Et comme elle a été jetée d'un train, cette bûcheronne un peu simple pense que c'est le train de marchandises qui lui a donné une petite marchandise. Donc voilà, donc il y a une espèce de petite ironie comme ça, parce que c'est une histoire qui est absolument tournée vers la vie, qui est une célébration de la vie, et pourtant qui appelle cette petite fille marchandise. Donc c'est, voilà, mais c'est un beau titre.
C'est la première fois que vous faites un film d'animation. Pourquoi ce choix ? Est-ce que le film d'animation finalement a changé votre rapport à la mise en scène ?
Je ne sais pas s'il a changé mon rapport à la mise en scène, mais il a changé la manière que j'ai eu de mettre en scène, parce que c'est un médium qui est très différent, c'est un format qui est très différent. Mais pour autant, ça reste quand même, les finalités restent les mêmes. En tant que réalisateur, mon boulot est de raconter une histoire et de créer des émotions avec des images et du son. Donc la finalité est la même, mais on ne construit pas du tout pareil les choses. Donc il a fallu apprendre, parce que je l'ai fait, pour le coup, j'ai pas pris un coréal et j'ai pas fait un rendez-vous tous les 2 mois, quoi. C'était vraiment tous les jours, 10, 12 heures par jour parfois, de boulot, de dessin, de zoom, de travailler avec des gens, etc. Donc c'était très très différent, et ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, très différent de la manière dont je fais les films d'habitude. Donc je ne sais pas si ça va changer, ça j'en sais rien, mais en tous les cas ça a été différent. Et pourquoi l'animation ? Parce que comme je vous disais, il y a quand même un des thèmes du film, c'est justement effectivement la déportation, le génocide juif, et que c'est très compliqué à représenter, au cinéma notamment, mais d'une manière générale. Et l'animation, c'est une manière de raconter qui vous permet de faire des petits décalages avec la réalité. Vous n'êtes pas tenu du réalisme, et donc dans le cas précis de la représentation des camps et de la déportation, vous pouvez évoquer des choses plutôt que d'être condamné à soit reproduire ce qui s'est passé, ce qui objectivement est impossible parce que c'est beaucoup trop violent, soit on propose une version un peu édulcorée, un peu disneyenne, qui est éthiquement problématique. Donc l'animation, moi ça m'a très bien correspondu pour raconter cette histoire.
Vous l'avez un petit peu évoqué, mais vous avez effectué vous-même les dessins. Ça devait être un vrai challenge. Vous voulez savoir où est-ce que vous aviez appris à dessiner ? Est-ce que c'était une passion d'enfance ? Est-ce que vous aviez fait des études au préalable ?
Alors, j'ai pas tout dessiné tout seul, hein, faut pas exagérer. Il y avait quand même une équipe, j'avais plein de gens, j'avais notamment une équipe déco sur laquelle moi je n'ai pas exécuté sur les décors. C'est-à-dire, j'ai participé comme un réalisateur normal. C'est-à-dire, j'ai dit voilà, je veux ça, je veux un plan large comme ça. Je faisais une esquisse de départ sur la valeur des plans et tout ça, mais j'ai pas dessiné concrètement. Par contre, j'ai dessiné sur les personnages. Et où est-ce que j'ai... Bah oui, en fait, je vais vous dire, c'est que quand j'ai eu 10 ans, j'ai vécu une humiliation terrible d'une institutrice qui m'a vraiment humilié sur le dessin. Mais vraiment, ça a été très dur. Et donc, j'ai cru qu'il fallait absolument que j'apprenne à dessiner pour aller au collège. Et donc, je me suis vraiment forcé à dessiner, parce que j'avais l'impression de dessiner très mal, mais c'est débile, parce que j'avais 9 ans. Donc, mais j'ai eu cette impression-là. Voilà, j'ai commencé à dessiner comme ça, à reproduire des dessins, à reproduire des photos, enfin voilà, redessiner des choses existantes. Et puis en fait, je ne me suis jamais vraiment arrêté. Puis du coup, j'ai fait une école d'art, voilà, avant de faire de la télévision, puis du cinéma.
Il me semble que le devoir de mémoire n'était pas un objectif pour vous. Qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à travers cette histoire ?
Moi, j'ai pas de devoir de mémoire, c'est pas mon... Je suis pas prof, quoi. Donc, moi, je fais du spectacle, je fais des films. Donc, je peux pas dire que je me suis mis en tête ce truc de devoir de mémoire. Comme je vous racontais, j'ai vu passer cette histoire, je l'ai prise. Si elle participe à un truc plus large que des gens appellent le devoir de mémoire, tant mieux, très bien, mais c'était pas un objectif pour moi. Ce qui m'a plu profondément, si on parle du cœur du truc, c'est que la figure qui est mise en valeur, ou qui est héroïsée dans le film, c'est la figure des justes. Les justes, ce sont les gens qui ont sauvé alors en l'occurrence des Juifs, qui les ont cachés, qui les ont sauvés, qui les ont protégés, alors qu'ils n'avaient aucun autre intérêt à le faire que leur propre morale, et que ce que leur morale leur dictait. Donc c'est une figure qui me semble très actuelle, parce que en fait, au moment où le monde marchait la tête à l'envers, bah, eux, ils avaient les pieds sur terre et la tête bien à l'endroit, bien faite. Et aujourd'hui, il y a plein d'endroits de notre société où le monde marche à l'envers. Et donc, il y a plein de sujets sur lesquels ça marche. Voilà, plus personne ne... Comment dire ? Pas que plus personne n'est en place, mais c'est le chaos. C'est une espèce de bordel sur beaucoup de choses. Et donc, dans ces choses-là, garder sa boussole morale en place et en marche, c'est important. Et au fond de nous, je crois qu'on sait quand même ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est pas le bien, le mal à l'américaine, mais on sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, on sait au fond de nous. Et donc, je trouve que de mettre en valeur des personnages qui nous donnent cet exemple-là dans un coin de notre tête, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça me plaît beaucoup.
Moins on montre, plus on suggère. Et comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que finalement le film d'animation a permis de créer un petit peu cette distance avec un contexte plutôt délicat ?
Alors, distance et proximité, mais en fait, c'est la bonne distance. C'est-à-dire, en fait, ben ça, c'est une des grandes leçons. J'ai toujours pris ce que je vais vous raconter en compte dans mes films, mais ça a été particulièrement vrai dans The Artist, qui est un film muet. Moins vous en dites, plus le spectateur s'investit dans l'histoire et il comble les trous. Donc, en fait, par exemple, pour représenter les camps, dans le cas qui nous occupe là, moi, il y a très peu d'images explicites. Il n'y a pas vraiment d'images explicites. En revanche, il y a des images qui donnent la place au spectateur de remplir avec son imaginaire, avec sa vision de l'enfer qu'étaient les camps, et ben il remplit l'espace que moi je lui laisse. Et donc voilà. Donc en fait, si un enfant de 12 ans va voir le film, ce qui est très bien, les images que je lui propose vont faire qu'il va le faire, il va avoir sa propre vision, mais il n'aura pas les mêmes images que quelqu'un qui a 65 ans et qui a lu 14 livres et qui sait exactement, enfin 200 livres et qui sait exactement. En revanche, ça aura la même puissance émotionnelle, mais moi je propose des images qui vont faire qu'eux vont combler chacun avec son système de valeurs, son système de connaissances, etc. Donc, l'animation pour ça était effectivement un outil que j'ai trouvé très. Qui m'a beaucoup plu pour ça, hein, parce qu'il m'a donné la possibilité de travailler comme ça. Et puis d'être sur des choses parfois même un peu symboliques, qui, si vous les faites dans un film live avec des acteurs, ça peut très vite être apprêté, ça peut tout de suite être un peu à effet, et ça peut vous sortir du film, alors que l'animation, justement, on est de toute façon, on est affranchi du réalisme.
Pour les personnages, est-ce que vous êtes inspiré de personnes existantes, de dessins ou d'univers cinématographiques, pour l'esthétique de votre film notamment ?
Non, pas d'univers cinématographique, non, pas vraiment, je sais pas, après on va peut-être me dire que ça ressemble à quelque chose, mais c'était pas une volonté de ma part d'être référent, donc non, ça non. Les personnages, y a un bûcheron qui pour moi était un peu le comme je vous dis, le film commence, il était une fois dans un grand bois, un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne, donc on est vraiment dans une esthétique de conte. Alors j'ai fait un bûcheron qui ressemblait un peu à un ogre, mais bon, avec mon imaginaire d'ogre, quoi, mais qui est un peu le même, je pense, pour tout le monde, c'est-à-dire un grand bonhomme costaud avec une barbe un peu fermée, comme ça, pas très causant. Non, il n'y a pas vraiment. Alors, si pour le personnage de la bûcheronne, en parlant avec Jean-Claude Grimbert, l'auteur du livre, il m'a dit un truc que j'ai bien aimé, mais il m'a dit parce que je voulais pas une jolie petite poupée disneyenne pour faire une bûcheronne polonaise des années 40 très pauvre, ça n'aurait eu aucun sens, et en même temps, vous pouvez pas non plus prendre un personnage auquel on n'a pas envie de s'attacher, auquel on n'a pas envie de, comment dire, avec qui on n'a pas envie de passer trop de temps, donc c'était un peu compliqué. Sans dire qu'en plus, les personnages de femmes sont plus compliqués à faire, parce qu'il y a moins de traits, et donc le moindre trait un peu inélégant type énormément un visage de femme, là où les visages d'hommes peuvent être plus burinés, les nez plus marqués, etc. etc. Et donc, il m'a parlé d'une actrice italienne que je connais très bien, qui s'appelle Anna Magnani, qui est une actrice qui a commencé dans le néo-réalisme italien, et c'est une actrice qui finalement est très belle, mais au départ, par exemple, quand les enfants vont la voir en photo, par exemple, ils vont pas dire elle est très belle, mais à la fin des films, elle est belle. Au début, elle n'a pas une beauté immédiate. Elle a un nez qui est marqué, elle a une mâchoire qui est marquée, elle n'a pas une grosse bouche pulpeuse. Mais les personnages font qu'à la fin, elle est belle. Donc voilà, c'était le type de visage que je, que je cherchais.
Pour le casting, on a Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Grégory Gadebois ou Denis Podalydès. Un beau casting pour interpréter les voix des personnages. Est-ce que vous avez directement pensé à ces acteurs et comment s'est déroulé le casting?
Alors vous dites où, mais c'est et.
Enfin.
Oui, et Podalydès. Alors Trintignant, j'ai tout de suite pensé à Trintignant dès le début et c'est la première chose que j'ai faite après avoir fini l'écriture, ça a été d'enregistrer la voix de Jean-Louis Trintignant, donc qui était déjà un homme âgé, malade, etc. Et il a une voix qui est fantastique. Enfin, d'abord, c'est un grand acteur. C'est une des plus belles voix du cinéma français, à mon sens. Et puis, c'est la voix d'un vieil homme qui est chargé, je trouve très émouvante, parce que c'est comme un visage ridé, si vous voulez. Vous entendez les rides dans sa voix. Donc, voilà, ça a été hyper bien. Et puis après, ça a été... Comme c'est, encore une fois, c'est écrit un conte, c'est un espèce de classique détourné, si vous voulez. Je voulais garder des dialogues qui sont des dialogues plutôt littéraires, c'est-à-dire pas hyper quotidiens, ils parlent pas en blablabla, quoi. Ils parlent, c'est des phrases construites et un peu littéraires. Et du coup, je voulais des acteurs de théâtre, des acteurs, comment dire, qui arrivent à vous rendre tout ça naturel, pas apprêté, pas empesé, etc. Et du coup, Gadebois, Dominique Blanc, Denis Podalydès, c'est quand même des acteurs de très haut niveau. Vous êtes toujours mieux quand vous êtes entouré de gens talentueux, quoi. Voilà. Sans parler de la musique d'ailleurs, qui a été composée et dirigée par Alexandre Desplat, qui est vraiment un des plus grands compositeurs de musique au monde aujourd'hui et qui fait partie de la grande tradition des grands compositeurs de musique français qu'on a eu depuis longtemps. Donc tout d'un coup, j'avais des bons acteurs, un grand compositeur, enfin des grands acteurs, un grand compositeur, un grand auteur. Ouais, j'étais bien, quoi. J'étais bien entouré.
Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous pourriez envisager un nouveau film d'animation?
Alors, j'ai des projets. Alors là, je travaille sur un livre, pas sur un film, mais je travaille sur un livre qui est un livre de portraits de combattants ukrainiens que j'ai été rencontrés. J'ai été plusieurs fois en Ukraine, mais j'étais une fois sur le front et donc là j'ai rencontré des combattants, des soldats et des soldats, comment dire, de carrière et d'autres désappelés, etc. Voilà, donc c'est une galerie de portraits de gens, enfin d'Ukrainiens, qui sont des portraits donc écrits et dessinés. Donc ça c'est le truc sur lequel je travaille en ce moment, qui devrait sortir en février. Et refaire un film d'animation, pourquoi pas, mais pas tout de suite parce que c'est un, comment dire, le rythme de fabrication est très différent. Il faut vraiment que vous ayez une histoire qui vaut la peine de passer autant de temps. C'est pas léger à faire, donc voilà, il y a des films qui sont plus ou moins légers. Ceux-là, l'investissement physique il est assez lourd, mais pourquoi pas, parce que vraiment le format il est passionnant, parce qu'il offre plein de possibilités que le film prise de vue réelle n'offre pas. Donc l'outil est génial. Donc je dirais, je peux pas vous dire non. En revanche, pas tout de suite. Voilà, puis j'ai envie de retrouver des acteurs un peu là.
Merci Michel Zanavicius d'avoir répondu à nos questions. Vous souhaite plein de belles choses pour la sortie de votre film. La plus précieuse des marchandises, on peut le retrouver au 400 coups à partir du 20 novembre. Merci à vous.
Merci beaucoup, merci à vous.
Si vous souhaitez une interview un peu plus complète, on en a une sur notre site internet de 44 minutes. Alors j'ai beaucoup aimé le film, l'histoire est très touchante, je n'avais pas du tout regardé le synopsis avant et je me suis totalement laissée plonger dans l'histoire sans savoir où cela menait, ce qui me l'a fait l'apprécier d'autant plus. Zanavicius sort ici de son carcan habituel avec un film à la fois dramatique mais aussi, comme il le disait tout à l'heure, plutôt tourné vers l'espoir et la bonté de l'humain.
Avec cette fable, Michel Zanavicius arrive à mettre de l'humanité et de la poésie sur une des périodes les plus sombres de notre histoire. En cherchant la lumière dans les ténèbres, il arrive avec beaucoup de pudeur et de délicatesse à déjouer tous les écueils. La plus précieuse des marchandises est un film touchant et profondément humain. Et on vous cache pas que ça fait plutôt du bien. Le film est à retrouver au 400 coups à partir du 20 novembre. I feel dirty as fuck. I feel dirty as fuck. I feel, I feel, I feel.
daddy as fuck, whipping in a pink truck, daddy as fuck, heat wanna get in my guts, licking my clit till I'm nuts, daddy as fuck, I feel daddy as fuck, sucking and making you up, he about to bust, I feel daddy as fuck, I feel daddy as fuck.
Et oui, vous venez d'écouter Daddy Have de Slater, tout droit sorti de la BO du film Anora de Sean Baker, palme d'or du dernier festival de Cannes, actuellement sur nos écrans. Alors nous l'avons vu, c'est notre coup de cœur. Cécile, tu en penses quoi ?
J'ai adoré Anora, j'attendais beaucoup sa sortie et j'avais un peu peur d'être déçue. Eh bien, je ne le suis pas du tout. Au contraire, le film aurait pu tomber dans certains clichés, mais il m'a surpris de bout en bout. Une love story entre deux adolescents ne venant pas du même milieu, oui, au début, certes. Un thriller d'action avec des mafieux russes venant mettre une raclée aux deux jeunes adultes, carrément. Mais pas que, Sean Baker détourne avec brio nos attentes et nous balade dans la ville dans un road trip totalement barjo. Avec toujours des pointes d'humour, un peu de punchline, il enchaîne les bons choix et les bonnes idées dans l'écriture et le développement de ses personnages. Anora ne raconte pas comme pourrait nous faire croire le trailer la rencontre entre deux personnages principaux, mais bien les mésaventures sur un mois ou deux de cette jeune fille en quête d'une sorte de rêve américain. Elle recherche du renouveau et surtout de la sécurité dans sa vie en tant que stripteaseuse dans un club de New York. La première partie se concentre sur leur rencontre et leur romance, peut-être qu'elle méritait d'être légèrement raccourcie. Cela tourne un peu en rond à base de clips chauds sur l'amour, mais ensuite on passe à une partie road trip, mésaventure et action, ce qui donne un ton beaucoup plus effréné et dynamique que j'ai beaucoup beaucoup aimé. On s'ennuie pas, malgré les 2h19 de film, et surtout l'actrice Mikey Madison est parfaite dans le rôle d'Anora, elle porte vraiment le film. Étonnamment, vous verrez sans trop vous en dire, mais le personnage d'Ivan est quant à lui absent pendant bien une bonne heure du film, un choix intelligent qui rebondit parfaitement sur le dénouement final et nous offre une fin brillante et émouvante.
Sean Baker est connu pour son humanisme et sa capacité à explorer la face B des États-Unis. Il met généralement la lumière sur les naufragés de l'American Dream, comme dans The Florida Project ou Tangerine, ses précédents films. Eh bien, Anora s'inscrit complètement dans sa filmographie. Nous avons affaire ici à une comédie romantique, mais bien plus profonde qu'il n'y paraît. C'est une sorte d'anti-Pretty Woman. Porté par une Mikey Madison éblouissante, le film exploite les tensions des classes sociales et la situation improbable sans aucun cynisme et le récit bascule sans effort du léger au dramatique. On flirte parfois avec Tarantino, les frères Cohen, ou plus récemment les frères Safdie. Anora nous fait rire et réfléchir en abordant des thèmes profonds. Sean Baker nous offre un film contemporain, accessible, touchant et profondément humain. Bref, une palme d'or amplement méritée.
Les gens veulent toujours de la nouveauté. Et à 50 ans, ça s'arrête.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
Alors, vous n'avez rien compris à cette bande-annonce, c'est normal, nous non plus. The Substance, c'est le projet totalement fou réalisé par la française Coralie Farga, ou Farja, je sais pas comment on dit, et qui fait déjà énormément parler depuis sa présentation en compétition au Festival de Cannes de cette année.
Véritable critique de notre société actuelle, le second long-métrage de la cinéaste mélange à la fois de l'horreur, le gore et le fantastique. Petit warning d'ailleurs, attention, interdit au moins de 12 ans.
The Substance prend place dans un monde où la nécessité de garder sa jeunesse est omniprésente et nous en propose les dérives à travers le personnage de Elizabeth Sparkle. C'est une ex-actrice ayant connu les célébrités qui décide de passer un pacte afin de garder sa jeunesse pour l'éternité.
Pour camper les rôles d'Elizabeth, deux actrices formidables, avec dans l'ordre Margaret Qualley qui tourne pas mal ces derniers temps et Demi Moore qu'on ne vous présente plus, sortie en salle prévue le 6 novembre.
Lucius, prends la force de ton père. Il se nommait Maximus. Je le vois en toi.
Peu de combattants survivront.
Tu dois l'aider à tout prix.
Force et honneur !
Force et honneur !
Je ne me bats pas pour le pouvoir. Je me bats pour libérer Rome des hommes comme eux. Ton nom ! Ton bras dans l'oubli !
Pour rétablir l'ordre, il me faut le pouvoir.
Le temps efface tout. Les empires tombent. Les empereurs aussi.
Le grand retour des arènes de jeu, des combats et des vengeances à gogo, Gladiator a enfin bel et bien une suite, toujours réalisée par ce bon vieux Ridley Scott. Le film qui a eu du mal à voir le jour suite à de nombreux événements sortira le 13 novembre sur grand écran et on vous propose une avant-première le dimanche 10 novembre à 20h30, on a très très hâte.
Mais alors la suite, ça parle de quoi exactement ?
Bah de vengeance, évidemment. On garde la même recette gagnante du premier volet et on recommence. Je ne sais pas si une suite est très utile personnellement, mais je pense qu'on peut que passer un bon moment. Des bastons, du grand spectacle et puis surtout bah, le casting, quoi. On en parle. Pedro Pascal, Paul Mescal ou encore Denzel Washington, que du lourd de chez lourd, on a méga hâte.
Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs ?
Alors si vous aimez les films de gladiateurs ou pas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur ce podcast, on attend vos avis avec impatience. Et puis nous avons souhaité faire un focus sur un premier film qui était en compétition officielle au dernier festival de Cannes, Diamant Brut d'Agathe Rodinger.
Diamant Brut est le premier long métrage de la réalisatrice, également auteure du scénario. Elle reprend ici un thème qui lui est cher, à savoir la condition féminine qu'elle abordait déjà dans ses courts métrages. Vivant dans un logement social avec sa mère et sa petite sœur, Liane se cherche un univers en guise d'échappatoire via ses milliers de followers sur les réseaux sociaux. Alors quand une société de télé-réalité lui propose un casting pour participer à une émission, Liane se voit déjà star, quitte à susciter le scepticisme de son entourage. Un sujet plutôt d'actualité, sorti prévu le 20 novembre. Et pour finir cette émission, nous allons vous parler de l'événement ciné de ce mois de novembre à ne manquer sous aucun prétexte.
C'est évidemment notre nuit des plans cultes qui se déroulera le 21 novembre à partir de 19h. Alors pour l'occasion, nous avions proposé de choisir 4 films cultes parmi une liste de 20. Vous avez été 1157 votants, merci d'avoir joué le jeu. Et sans plus attendre, nous allons vous annoncer les 4 films gagnants.
En numéro 1, avec 401 voix, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, séance à 19h.
En numéro 2, avec 399 voix, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, séance à 22h.
Un peu d'horreur, avec en numéro 3, 335 voix pour Shining de Stanley Kubrick, séance à 3h du matin, attention.
Et enfin, en numéro 4, avec 329 voix, histoire de se marrer un peu, La Cité de la Peur de Alain Berberian, séance à 1h.
Au programme de cette nuit des plans cultes, des blind tests, des karaokés et un petit déjeuner offert pour les plus courageux d'entre vous. Bref, on vous attend nombreux pour cette nuit de folie. Désolé pour la ref, mais ça nous a bien fait marrer. Nous organiserons lors de la soirée un petit concours de déguisement, alors n'hésitez pas à nous surprendre et tenter de remporter de nombreux cadeaux.
Alors ne manquez pas la nuit des plans cultes le 21 novembre à partir de 19h. La billetterie est ouverte et ça se passe dans votre ciné préféré. On vous attend.
Et voilà, l'émission touche à sa fin sur cette très chouette musique. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, vous nous retrouverez notre programmation et tous nos événements sur www.lescatsonscoup.org et sur nos réseaux sociaux. D'ici là, courez dans les salles. On se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Angers, sur le 103 FM. À bientôt, Jean.
Oh, salut, Cécile.
Les 400 coups.
Une émission à retrouver en podcast sur www.radiocampusangers.com.